comment ça se passe au quotidien, la vie avec un télescope qui va encore durer quelques années? Est-ce que vous avez parlé de temps garanti, hein, de programmes qui ont été préparés à l'avance? Est-ce qu'aujourd'hui vous appliquez un programme qui a été imaginé il y a quelques années en le déroulant au fur et à mesure, en changeant de cible, etc.? Ou est-ce que c'est un peu plus, entre guillemets, souple et sauvage que cela?
C'est pas très souple, non. Il faut bien le reconnaître, c'est vraiment pas très souple. Les programmes, disons, la souplesse qui est autorisée, c'est celle qui consiste à dire on a un télescope dont la durée de vie est finie, elle est de 3,8 ans. Donc, si vous nous proposez une modification qui ne consiste pas à rajouter un nouvel objet à vos observations et qui permet de faire d'obtenir la même science de façon plus efficace, on prend. Par contre, s'il s'agit de faire une nouvelle chose, alors il faut repasser par le système de compétition, ce qui semble tout de même cohérent, parce que le temps garanti, c'est du temps qui vient rétribuer des efforts d'équipe conséquents, effectivement, pour réaliser des instruments. Mais bon, une fois cette rétribution accordée, il n'y a pas légitimité particulière à ce que ces équipes-là aient un accès privilégié au télescope par rapport à d'autres. Donc oui, on déroule en ce moment ce qui s'appelle le temps garanti, et puis ce qu'on appelle aussi les projets clés de temps ouvert, qui ont été, eux, fournis par la communauté internationale. Et puis, il y a quelques jours maintenant, on vient de se terminer le premier appel à proposition type classique, cette fois-ci. Et donc, on a reçu à peu près 600 propositions de nouvelles observations, enfin de nouveaux programmes, cette fois-ci des plus petits programmes. Et ils vont être classés et sélectionnés en novembre prochain.
Sur quoi travaillez-vous, vous-même? Alors, directement?
Moi, je m'intéresse à l'émission des galaxies elles-mêmes, pas des galaxies lointaines, des galaxies de notre univers, et j'essaie de comprendre, en fait, comment est-ce que des propriétés locales à l'intérieur d'une galaxie, par exemple le fait que certaines galaxies ont des régions centrales très actives et d'autres pas, le fait que la formation stellaire soit importante ou pas importante dans une galaxie, comment est-ce que ça, ces propriétés locales vont se refléter dans les propriétés globales de la galaxie? En fait, ce que je cherche à faire, c'est établir des grilles d'interprétation qui permettent aux gens qui travaillent cette fois-ci sur les galaxies lointaines pour lesquelles il n'y a plus d'informations spatiales, qui leur permettent d'interpréter les missions qu'ils voient, de la traduire en termes de justement ce qu'on cherche en général, qui est l'activité de formation stellaire. Et en particulier, qui leur donne des clés sur quel genre de précision ils peuvent espérer atteindre sur la mesure de ces choses-là, quels biais peuvent s'introduire dans leur mesure et comment éventuellement ils peuvent identifier que ces biais sont présents. Typiquement, ce qu'on voit, nous, c'est, dans des galaxies proches, c'est justement c'est les contributions de la partie centrale des galaxies. Les galaxies spirales sont formées d'un disque dans lequel il y a les bras spiraux et l'essentiel de l'activité de formation d'étoiles est là-dedans, et puis d'un bulbe qui est plus ou moins important, qui contient des étoiles plus âgées que le disque en général, qui sont vraisemblablement des étoiles qui sont là depuis les premières époques de formation des galaxies. Et quand on va regarder dans l'infrarouge, en fait, la contribution des parties centrales de la galaxie est très variable d'un objet à un autre. Et parfois, ça peut faire 90% de la luminosité totale de la galaxie. Donc, c'est là que ça devient important d'essayer de comprendre ou de savoir contrôler qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Parce que si j'interprète la luminosité de la galaxie comme me traçant l'activité de formation stellaire, alors que 90% de cette luminosité est fournie par le noyau de cette galaxie, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, justement, on cherche à établir quel type de variabilité on a en prenant des échantillons de galaxies qui sont suffisamment proches pour qu'on puisse, justement, les décomposer en leurs différentes sous-structures et voir quelle est la luminosité de ces différents éléments, comment elles contribuent, et puis essayer de relier les résultats qu'on va obtenir à d'autres paramètres qui pourraient être mesurables par ailleurs.
Quand vous parlez de biais, ça veut dire qu'il y a peut-être des spécificités à l'univers local dont il faut tenir compte?
Il y a sans doute des spécificités à l'univers local, en ce sens que l'univers local est un peu moins actif que l'univers lointain. Mais après, on commence à voir qu'il y a quand même beaucoup de points communs à l'univers local par rapport à l'univers lointain. Et justement, on cherche à comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement de dire que l'univers, quand il était à 20 ou 30% de son âge actuel, il était plus actif qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que simplement les galaxies étaient beaucoup plus grosses et bon, localement elles formaient autant d'étoiles que maintenant, mais elles étaient simplement beaucoup plus grosses, donc ça faisait beaucoup d'étoiles, ou non, elles n'étaient pas plus grosses, mais elles étaient beaucoup plus actives, beaucoup plus concentrées, le taux de formation stellaire était beaucoup plus important localement. Tout ça contribue globalement à faire que l'univers soit plus actif, mais c'est très difficile à déterminer à grand décalage spectral parce qu'on n'a plus que des points. Et c'est justement ce qu'on commence à voir avec Herschel, c'est qu'on a la sensibilité pour commencer à voir quelque chose qui jusqu'ici nous avait échappé. C'est que oui, peut-être qu'à grand décalage spectral, vers des redshifts de 2 ou 3, c'est-à-dire quand l'univers a 10-20% de son âge actuel, mais il y a une bonne part de la formation des étoiles qui se fait dans des galaxies qui sont pas tellement différentes des galaxies spirales d'aujourd'hui, sauf qu'elles sont beaucoup plus grosses. Alors que jusqu'ici, le paradigme, c'était plutôt de dire, dans l'univers lointain, ce qui se passe, les spirales, tout ça, ça n'existe pas. Et on a plutôt des galaxies type ultra-lumineuses, comme ARP 220, qui est une fusion de deux galaxies, donc des objets dans lesquels tout est très très concentré, et ça fait des taux de formation d'étoiles extrêmement importants, des choses qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Donc c'est ces choses-là qu'on essaie de comprendre, en repérant quels analogues possibles on pourrait trouver dans l'univers local à ces objets lointains, parce que c'est toujours plus facile d'étudier des choses près que des choses loin. Enfin, on peut faire de la statistique quand on va loin, ce qu'on ne peut pas faire quand on est près. Par contre, quand on regarde des choses près, on peut comprendre assez finement la structure et comment ça marche.
Alors, on comprend bien que c'est, comment on dit, un work in progress. Le travail est en cours. Il y a de l'astrophysique, il y a de la cosmologie. Il y a un pont entre les deux très, très évident, hein, puisque vous décrivez à la fois une physique galactique et en même temps les implications que ça a sur l'histoire de l'univers. À partir de quand, finalement, s'organisera une synthèse, le grand rendez-vous attendu, parce que là, au bout d'un an, un peu plus d'un an, sortent les premiers papiers, même s'ils sont nombreux, je dirais, est-ce qu'il faut attendre la fin de vie du télescope ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez faire un point qui donnera une autre vision de l'univers local et lointain?
Alors justement, on discutait de ça au meeting à l'ESTEC, de savoir si on en ferait un autre. De ce type de meeting qui sont des réunions qui rassemblent toute la communauté qui travaille sur Herschel. Et c'est pas clair, c'est pas évident. En fait, justement, c'est vrai que je conçois très bien que ça soit un peu... justement, nous, scientifiques, on a tendance à provoquer un peu cette demande en disant « Voilà, on construit ce satellite, ça va nous apporter telle et telle réponse. » Et puis, en fait, on laisse un peu les gens sur leur faim parce qu'on fonctionne, en fait, pas comme ça. C'est-à-dire que oui, Herschel va apporter un certain nombre de réponses, mais je crains qu'il n'y ait pas un moment vraiment clair où on se dise « Bon, alors voilà, maintenant que Herschel est fait et que nous avons analysé tous les résultats, l'univers est comme si ». Ce qui va sans doute se produire, c'est que dans différents domaines, sans doute pas de façon synchrone, pas au même moment, on va dire « Bon, ben voilà ». Les résultats d'Herschel nous montrent que la formation des étoiles a évolué de telle façon entre un décalage spectral de 5-6, qui est le plus loin qu'on puisse voir avec Herschel, et maintenant. Et puis les gens de la formation stellaire, à un autre moment, vont dire, ben, voilà, le nouveau modèle qui explique l'origine, nous explique l'origine de la fonction initiale de masse, eh bien voilà le consensus actuel avec tel et tel point de débat, parce que très vraisemblablement, il restera encore un certain nombre de points débattus dans ces explications. Alors, ça, c'est ce que je pense qui est probable. Maintenant, il faut quand même intégrer Planck dans cette histoire parce que, en tout cas, au niveau de la physique de l'univers lui-même, de la structure de l'univers, Herschel et Planck attaquent les choses par deux côtés. Planck nous donne des contraintes sur vraiment la structure de l'univers telle qu'elle est donnée par la matière noire, l'énergie noire. Et Herschel, lui, étudie la structure de l'univers telle qu'elle est révélée par la matière visible, qui suit forcément la structure de l'univers qui est dominé par énergie noire, matière noire. Donc à un moment, il va falloir faire coller les deux. Mais je pense, il me semble que la science fonctionne plus comme une espèce de débat permanent, d'où émergent un certain nombre de consensus sur différentes choses, sur la base duquel on va construire les nouveaux questionnements. Et pas, il nous manque d'une certaine façon un GIEC qui ferait tous les 4-5 ans un rapport de bah, voilà, l'univers aujourd'hui, on pense qu'il est comme ça.
Construire les nouveaux questionnements et peut-être aussi construire les nouveaux outils. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, il faut 10 ans, 15 ans pour imaginer un télescope, le faire financer, le construire, le lancer et observer. On pense déjà à la suite d'Herschel ou finalement on attendra les résultats pour définir ce que sera cette suite?
Alors, en Europe, on ne pense pas encore à la suite d'Herschel parce qu'il n'y a pas vraiment de... Je dirais, en ce moment, le paysage européen est plutôt dominé par ce qui va se faire pour Cosmic Vision, dans lequel il n'y a pas vraiment de grands satellites infrarouges, d'autant qu'on a tout de même une limite qui est la taille du miroir. Pour l'instant, Herschel, c'est quand même le plus grand miroir qu'on était capable d'emmener dans l'espace en un seul morceau. La balle est passée en ce moment dans le camp des Japonais qui ont une mission en préparation qui s'appelle Spica, qui doit travailler dans le même domaine qu'Herschel avec un télescope malheureusement un peu plus petit mais refroidi, donc une sensibilité sans commune mesure avec ce qu'Herschel pouvait faire. En fait, en Europe en ce moment, on est en ce moment très très embarqué dans justement les problématiques énergie noire, matière noire, et donc les satellites type Euclide qui pourraient nous révéler...
C'est le problème à résoudre.
C'est le problème à résoudre, oui. Ça, c'est clair que c'est le problème à résoudre. C'est un problème devant lequel les autres questions peuvent sembler un peu petites.
Vous avez juste perdu 96% de l'univers.
Oui, c'est un peu malheureux.
C'est pas très ordonné, tout
ça. C'est pas très ordonné. Non, mais je suis pas sûr que les astronomes soient des gens très ordonnés, quand même.
Il reste 3 ans d'observation à peu près.
Moi j'avais calculé qu'on avait jusqu'en mars 2013, donc un petit peu moins, il reste un peu moins de 3 ans d'observation.
Un peu moins de 3 ans. Combien de superficie du ciel balayée?
Typiquement, je crois qu'on est à environ un petit peu moins de 10% de la totalité du ciel couverte, ce qui est énorme en fait. Je pense qu'on a sans doute du mal à se rendre compte de ce que ça peut vouloir dire que de couvrir 1% du ciel ou... avec une expérience qui est capable de résoudre des objets de quelques arcs secondes. Donc, c'est...
Et beaucoup de travail de dépouillement, je dirais des tas de thèses.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, qui moi me fascine sur Herschel, c'est que j'ai connu un satellite qui était ISO sur lequel il fallait investir énormément d'énergie pour produire les données sur lesquelles on allait travailler pour faire de la science. Alors qu'Herschel, cette partie-là, finalement, est relativement simple. Et on arrive très vite à avoir sur son bureau ou dans son ordinateur des images, des spectres, des choses sur lesquelles on va se poser non plus des questions techniques de comment je calibre, par quoi je dois diviser, et ainsi de suite, mais des questions scientifiques de qu'est-ce que c'est en train de me dire, est-ce que ça colle avec ce que je comprends, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il faut que je modifie ma représentation? Et donc effectivement, ce que je vois, c'est que il y a énormément de travail scientifique qui va être généré par une expérience commerciale.
C'est une certaine maturité que de prendre possession complètement des outils mis à disposition pour ne faire, je dirais, que de la science et pas de,
oui, moi, c'est
de
vraiment,
réparer des problèmes. Quoi.
C'est vraiment quelque chose qui me frappe sur Herschel, c'est à quel point on est passé très très vite de essayer de maîtriser la bête. Ah, maintenant, comprendre cet univers qu'elle nous montre. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est dû à une maturité de la communauté scientifique qui a eu beaucoup de temps pour apprendre à raisonner dans cet espace qui est l'infrarouge submillimétrique. C'est une maturité aussi technique, puisqu'Herschel, c'est l'héritier quand même d'une lignée de satellites. C'est aussi une maturité technique, je pense, des équipes en Europe. Du point de vue de l'astronomie spatiale, vraiment Herschel, c'est un très grand télescope. C'est pas un petit télescope spatial, c'est un très grand télescope spatial, et c'est vraiment une expérience très complexe, mais qu'on arrive à faire fonctionner très bien.
Merci Marc Sauvage d'être venu faire ce point d'étape, en sachant que pour grimper sur la montagne, il y a pas mal de cols
installés. Oui.
Merci à vous de nous avoir suivis. On continuera à suivre évidemment les résultats d'Herschel. Merci à vous de nous avoir suivis, puis on se retrouve pour un prochain épisode.